Parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour chers auditeurs. Le 15 mai dernier, l'Église universelle s'est réjouie de la canonisation de 10 hommes et femmes de plusieurs pays du monde. On a beaucoup entendu parler de Charles de Foucault, un peu des deux autres Français, Marie Rivier et César de Bus, mais très peu des 7 autres de plusieurs pays. J'ai eu la curiosité de m'intéresser à eux et je vous fais part du fruit de mes recherches. Avant d'évoquer ces nouveaux canonisés, écoutons quelques phrases du pape François en ce jour de fête des canonisés. Le pape a exhorté à ne pas avoir de vision idéalisée de la sainteté, à ne pas la considérer comme un objectif inaccessible, séparé de la vie quotidienne, au lieu de la rechercher et de l'embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la rue, dans les efforts de la vie concrète. Être disciple de Jésus et marcher sur le chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la puissance de l'amour de Dieu, a dit encore le pape François. Découvrons Titus Brandsma. Le père Brandsma, né en 1881 aux Pays-Bas, est un père carme. De 1909 à 1923, Titus enseigne la philosophie, la sociologie et l'histoire de l'Église au Philosophicum Séminaire des Carmes à Ossie. Il y fonde un lycée qui porte maintenant son nom. Ayant obtenu un diplôme de journaliste professionnel, il devient en 1919 rédacteur en chef d'un journal local à Ossie. Plus tard, à Nimègue, il est journaliste du journal régional. Il est conseiller spirituel de l'Association des journalistes catholiques et s'occupe de l'amélioration des conditions de travail des journalistes et du renouveau de la presse catholique. Il propose la fondation d'une école pour journalistes qui ne sera réalisée qu'après sa mort. Face à la montée du nazisme, il ne cache pas la vérité. Lui qui dit « Qui veut gagner le monde au Christ doit avoir le courage d'entrer en conflit avec ce monde. » En 1935, Titus Brandsma devient le porte-parole de l'évêché d'Utrecht et dès ce moment, il s'oppose fermement aux théories nazies et à la persécution des Juifs. En 38-39, il donne une série de cours sur les principes néfastes du nazisme et prend la défense des Juifs. Le 19 janvier 1942, Titus Brandsma est arrêté à Nimègue et emprisonné, après plusieurs interrogatoires et mauvais traitements. Le 11 juin, il est transféré au camp de concentration de Dachau, où il arrive le 19 juin. Sa santé est déjà fortement ébranlée et après un mois de vie dans le camp, il est tellement affaibli qu'il perd conscience par moments. Dans cet enfer, il garde sa sérénité proverbiale, soutenant le moral des détenus, partageant avec eux sa maigre ration et les invitant à aimer leurs ennemis. « Eux aussi sont des enfants de Dieu, dit-il, et peut-être quelque chose est-il resté en eux. » Très faible, il passe plusieurs fois par l'infirmerie. Inconscient durant plusieurs jours, il reçoit une injection mortelle donnée par l'infirmière du camp et décède en quelques minutes le 26 juillet. Il est incinéré dans un des fours crématoires de Dachau. Sa mort n'a pas été annoncée par la plupart des journaux catholiques par peur de représailles. Le tribunal ecclésiastique a clôturé la phase diocésaine du procès en béatification en l'église des Carmes à Nimègue en 1957. Le dossier de Titus Brandsma a été transmis à la Congrégation pour la cause des saints à Rome fin décembre 1957. Il a été béatifié le 3 novembre 1985 par le pape Jean-Paul II. À l'occasion de sa canonisation, une soixantaine de journalistes demandent qu'il soit déclaré saint patron des journalistes aux côtés de saint François de Sales. Et toujours à propos de saint Titus Bransma, je vous rapporte une précision. Lors de la messe de Pâques, une tradition qui avait été abandonnée en 2020 a été relancée, celle des tulipes hollandaises pour décorer les marches du parvis de la basilique Saint-Pierre, tradition que l'on doit à Titus Bransma justement. C'est lors de la béatification de Titus par le pape Jean-Paul II le 3 novembre 1985 qu'a été initiée la tradition des fleurs hollandaises. Pour chaque grande fête, des entreprises des Pays-Bas finançaient depuis la décoration florale du parvis. Pour le 15 mai 2022, il s'agit d'une collaboration de la télé hollandaise, de plusieurs fondations et cultivateurs des Pays-Bas, ainsi que des jardiniers du Vatican. Et à la place des traditionnelles tulipes, les Pays-Bas ont décidé de marquer l'événement en recouvrant pour ce dimanche de canonisation le parvis avec des roses. Voilà ce que je voulais vous faire partager sur ce nouveau père Carme, canonisé le 15 mai, que nous, Français, ne connaissions pas. Une autre canonisation de ce 15 mai, Maria Domenica Mantovani. Elle est née en 1862, issue d'une famille de paysans vivant près de Branzone en Italie. Dès son plus jeune âge, elle travaille aux soins de la ferme familiale. Sa mère lui inculque une dévotion particulière pour la Sainte Vierge. En 1877, Don Joseph est le nouveau vicaire de la paroisse de Castello di Branzone. Il remarque la piété de Maria Domenica et devient son directeur spirituel. Il la guide pour réaliser son rêve, devenir une sainte. Le 8 décembre 1886, à 24 ans, Maria Domenica fait vœu de chasteté. Dès lors, elle collabore avec Don Joseph, faisant le catéchisme aux enfants et visitant les malades. Don Joseph propose de créer une congrégation de religieuses pour l'aider dans ses activités sacerdotales. Après avoir reçu l'accord de l'évêque de Vérone, Don Joseph regroupe un petit nombre de jeunes femmes et place à leur tête Maria Domenica. Après un noviciat chez les franciscaines de Vérone, elles font leur profession religieuse le 4 novembre 1892. Ainsi naît la congrégation des petites sœurs de la Sainte Famille. Nommée supérieure de la jeune communauté, Mère Mantovani occupe cette fonction jusqu'à sa mort. Fidèle à Don Joseph, elle suit chacune de ses orientations. Bien que peu instruite du fait de sa condition paysanne, elle sait toutefois bien diriger ses religieuses. Ses directeurs spirituels ont également remarqué qu'elle possédait une science spirituelle peu ordinaire. Après la mort de Don Joseph en 1922, Mère Mantovani se retrouve seule pour mener la congrégation. Sous son impulsion, de nouveaux couvents sont fondés et le rayonnement grandit dans toute l'Italie. De nombreuses jeunes femmes désirent la suivre et en 1931, on compte déjà plus d'un millier de petites sœurs de la Sainte Famille. En plus d'apporter de l'aide aux prêtres dans leur paroisse, les sœurs ouvrent des orphelinats, des écoles pour les enfants pauvres et des maisons de retraite. Mère Mantovani s'investit beaucoup dans la formation des religieuses et dans le soin des miséreux. En 1932, la congrégation est définitivement approuvée par le Saint-Siège. Après une série de grosses fièvres, elle meurt le 2 février 1934 à l'âge de 72 ans. Sa cause de canonisation débute en 1986. Elle est déclarée vénérable le 24 avril 2001. Et voici le miracle reconnu pour sa béatification. Le 6 mars 1999, dans une clinique d'Argentine, un nourrisson tombe accidentellement et subit un important traumatisme crânien. Les lésions sont graves et son pronostic vital est engagé. La famille du nourrisson invoque Maria Domenica Mantovani pour la guérison du nourrisson et lui applique une relique. 3 jours plus tard, le nourrisson peut sortir sain et sans aucune séquelle de l'hôpital. À la suite de la reconnaissance d'un miracle attribué à son intercession, Mère Mantovani est proclamée bienheureuse le 27 avril 2003 par le pape Jean-Paul II. Un second miracle est nécessaire pour la canonisation. En 2001, un enfant argentin de 11 ans, souffrant de troubles épileptiques, d'insuffisance respiratoire et de paralysie aux membres inférieurs, subit de lourds traitements inefficaces. Sa famille invoque Maria Mantovani pour obtenir sa guérison. En quelques jours, l'état de l'enfant redevient soudainement et totalement normal. À la suite des rapports médicaux constatant l'inexistence d'explications scientifiques pour justifier cette guérison, le pape François reconnaît authentique ce miracle attribué à l'intercession et signe le décret de sa canonisation. En 1987, 50 ans après sa mort, le corps de la religieuse est retrouvé intact. Il est exhumé et placé dans une châsse de verre. Il est exposé à la vénération des fidèles à la maison mère des petites sœurs de la Sainte Famille de Castello di Branzone. À demain, chers auditeurs.